Décryptage, Marie Cazadebé.
Depuis 5 jours, l'Algérie vit au rythme des manifestations. Ce mardi, ce sont les étudiants qui ont à leur tour dénoncé la nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika. La 5e rassemblement à Alger, mais aussi en province. La colère grondait depuis l'annonce du FLN, le parti au pouvoir, le 10 février. Elle a explosé vendredi. 100 000 personnes dans les rues de la capitale, du jamais vu depuis le début des années 90.
Il y avait toutes les catégories de la société. Les gens qui passaient ont pris part à la manifestation. Quand ils arrêtaient un groupe, un autre groupe prenait le relais pour lancer des slogans. On sent qu'il y a une conscience collective que l'Algérie vit une période difficile et on doit tous être debout.
Comment expliquer une telle mobilisation et comment interpréter les réactions des autorités algériennes qui n'ont pas l'intention de proposer une alternative au président sortant mais qui ne répriment pas non plus ce mouvement? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Laetitia Bucaille.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes sociologue, vous êtes notamment la directrice adjointe du CESMA. C'est le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et nous sommes en ligne d'Alger avec Issan El Kadhi. Bonsoir. Issan El Kadhi, est-ce que vous m'entendez ? Le directeur de Maghreb émergent, le journal en ligne que j'espère nous allons pouvoir entendre au cours de cette émission. Et pour commencer, Laetitia Bucaille, la manifestation de vendredi semble avoir surpris par son caractère spontané mais aussi son ampleur. Pourquoi était-ce aussi étonnant d'assister à une telle mobilisation ?
Eh bien parce qu'en fait, on s'est demandé à l'époque des printemps arabes en 2011 si l'Algérie aussi allait se joindre au mouvement qui se produisait en Tunisie, en Égypte et ailleurs, et que à ce moment-là, effectivement, la protestation est restée très contenue. Il ne s'est pas rien passé, mais en tout cas, cette protestation n'est pas devenue un mouvement collectif. Le pouvoir a très bien su étouffer, endiguer la contestation naissante, et que l'explication qui a été beaucoup donnée, c'était que les Algériens avaient déjà eu une expérience démocratique, qu'ils avaient payé extrêmement cher, puisqu'ils l'avaient payé par une guerre civile, la décennie 1990, qui a été très sanglante et très traumatisante pour les Algériens, et que du coup, les Algériens étaient en quelque sorte vacciner contre les risques du conflit, de la désunion et donc de la démocratie. Et qu'il préférait la sécurité, la stabilité au risque de conflit et de désordre.
Alors nous avons à nouveau Issan El Kadhi en ligne avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur donc de Maghreb émergent, le journal en ligne, et de Radio M à Alger. On parle de manifestations spontanées. Sait-on comment est née la mobilisation à laquelle on a commencé donc à assister vendredi dernier ?
Oui, bien sûr, c'est né sur les réseaux sociaux. Il y a eu une série d'appels et la question s'est posée quelle était la date la plus appropriée. Et puis bon, de proche en proche, c'est le vendredi qui a pris le dessus parce qu'on sait que le vendredi, il y a une possibilité de partir de après la prière du vendredi des mosquées. Il faut bien comprendre que le régime de Bouteflika a tellement fermé l'espace public depuis 20 ans que les seuls points de départ de manifestations publiques ne peuvent être que les mosquées et les stades. Mmh. Et donc, de manière tout à fait normale, la toile a choisi le 22 et se sont greffés dessus des mouvements politiques qui étaient hostiles au cinquième mandat. Et ils ont soutenu cette dette-là, voilà. Mais en fait, je dirais que tout le monde voulait sortir et il restait juste à s'entendre sur le jour.
On parlait quand même de la surprise qu'avait provoqué l'ampleur de la mobilisation et notamment ces 100 000 personnes à Alger. Vous-même, vous avez été surpris ou vous attendiez à ce qu'un jour il y ait une telle mobilisation dans la rue ?
Nous avons été surpris, effectivement. On s'attendait à ce qu'il y ait des manifestations. Ça, il n'y avait aucun doute. Il faut bien noter que le 22, c'était quand même la 12e ou 13e manifestation. Il y en avait beaucoup qui s'étaient déroulées à l'intérieur du pays, mais qui n'étaient pas de cette ampleur-là. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on savait que les Algériens étaient en colère. Mais se posait toujours cette question, est-ce que la police, les forces de sécurité allaient laisser faire ? Et on sait qu'à chaque fois qu'il y avait un mot d'ordre de rassemblement, un point de départ de manifestation, on déployait tellement d'effectifs et on utilisait des moyens tellement violents qu'on arrivait toujours à disperser toute manif avant même qu'elle se mette en mouvement. Et cette fois-ci, la foule était tellement nombreuse que j'ai entendu dire au début de votre présentation que le pouvoir avait choisi de ne pas réprimer. Moi, je corrigerai, je dirais qu'il a commencé à réprimer, il réprime toujours, mais il n'arrive pas à se mettre à la hauteur de on va dire, il est submergé par le flot des manifestants.
On va évoquer tout à l'heure les réactions du pouvoir. Laetitia Bucaille, il faut quand même rappeler que en Algérie, on n'a pas le droit de manifester. Les manifestations publiques de ce genre sont interdites. Ça veut dire que les Algériens, aujourd'hui, prennent des risques.
Oui, ils prennent des risques et effectivement... On ne sait pas exactement comment va réagir le pouvoir, et si le pouvoir prend peur et veut essayer de contenir ce mouvement. On sait que c'est toujours des moments très très délicats, hein, ces gestions de manifestations. On le voit d'ailleurs aussi en France.
Issa Del Kadi, on laisse terminer. Laetitia Bucaille, je me tournerai vers vous juste après.
Oui, donc y a bien sûr des risques de dérapage et des risques de répression, et les Algériens en sont tout à fait conscients. Cela dit, cet après-midi, parmi les manifestants étudiants, on entendait certains étudiants qui avaient en tête, qui insistaient sur le fait que leur démarche était pacifique. Et je crois qu'un certain nombre de manifestants sont très attentifs à avoir une attitude tout à fait pacifique pour justement désamorcer le risque de violence et de répression.
Issa Del Kadi, pour vous, il y a eu tentative de répression et puis finalement, quoi, alors des forces de l'ordre dépassées ou finalement qui se disent que s'ils répondent, ce sera vraiment un bain de sang?
À Alger, les forces de l'ordre ont bien sûr réprimé. Elles ont notamment empêché le cortège d'arriver au siège de la présidence à Al-Mouaradia, sur les hauteurs de la ville. Et il y a eu aussi au centre-ville, à l'appel de Mouattana, le 24 février aussi, une répression assez forte, avec beaucoup de gaz lacrymogène et des arrestations, du matraquage. Mais en règle générale, les Algériens savent qu'il y a toujours ce risque. Et qu'on peut, si on est nombreux, on peut le déborder. Il faut noter que en 2011, il y a eu aussi une répression. Le printemps arabe a touché l'Algérie. Il y a eu des manifestations dans le pays. Il y a eu des émeutes. Et il y a eu 4 morts par tir de balles. Mmh. Bon, pour le moment, on n'a pas encore utilisé des balles réelles. Et le mouvement a effectivement des mots d'ordre pour rester ses limites, c'est-à-dire pacifique. Et c'est, on va dire, globalement jusqu'à maintenant assez bien respecté.
Laetitia Bucaille, comment vous percevez justement l'attitude des forces de l'ordre? Est-ce que c'est un choix de laisser faire, on va dire, ou en tout cas de ne pas réprimer au point que ça puisse freiner les manifestations?
Je pense que
ça dépend ce qu'on met dans répression.
Issan, je posais la question à Laetitia Bucaille, je reviens vers vous dans un instant.
Je pense que le pouvoir a donné des consignes de retenue aux forces de l'ordre, parce qu'effectivement, on a vu à d'autres occasions des forces de l'ordre bien plus efficaces dans le maintien de l'ordre en Algérie. Enfin, puis, je sais pas, octobre 1988, c'est loin, mais on est quand même éloigné de ces méthodes. Alors, ça veut pas dire que ça restera. Comme ça, mais le pouvoir essaye sans doute d'éviter la confrontation, mise sur un essoufflement du mouvement, peut-être un éclatement du mouvement, mais bien sûr cherche à éviter. Ça serait quand même tout à fait très très nocif pour le pouvoir lui-même qu'ils doivent régler cette question en réprimant très fortement les manifestations. Donc ils veulent, de toute façon l'argumentaire évoqué par le Premier ministre c'est toujours le même, c'est le fait de parler de la guerre civile, des dangers de la désunion, etc.
On va l'entendre dans un instant.
Le pouvoir essaye d'utiliser ce même argumentaire, mais semble-t-il certains nombres d'Algériens ont dépassé cette crainte de la fitna, de la guerre civile.
On va entendre justement quelques manifestants dans les rues d'Alger vendredi. Ils répondaient à notre correspondante, Leïla Berato.
Aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je représente la jeunesse algérienne qui a fait des études, qui s'est donnée à fond pour se construire un avenir. Et malheureusement, on n'arrive pas à le faire parce qu'il y a des gens qui nous stoppent et il y a ce système qui nous stoppe.
Moi, je la trouve extraordinaire. C'est une organisation spontanée. En même temps, c'est tout le monde joue le jeu. Donc, tout le monde respecte la trajectoire. On ne sait même pas où on va maintenant.
Franchement, personne ne pouvait prévoir une telle mobilisation. On savait que les Algériens ont reçu la candidature du président comme une violence et comme une indignation. Et je pense que là, ils expriment cette, cette indignation et cette colère.
L'élément déclencheur, donc on l'a entendu, c'est la cinquième candidature d'Abdelaziz Bouteflika à la présidentielle, un chef de l'État de 81 ans, invisible ou presque depuis 2013, au pouvoir depuis 30 ans. Issane El Kadhi, comment cette nouvelle candidature a été perçue par les Algériens qui protestent depuis vendredi? C'est quoi? C'est un sentiment d'immobilisme, une fatalité? Qu'est-ce qu'ils disent de cette situation politique?
En fait, c'est un pacte passé avec, entre le président Bouteflika et la société algérienne qui s'est rompu très brutalement vendredi dernier, en tous les cas ces derniers jours, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a eu des manifestations qui ont précédé le vendredi. Et Bouteflika est au pouvoir depuis 20 ans, depuis 1999. Le pacte, c'est Bouteflika apporte la sécurité, il apporte une forme un modèle redistributeur de la rente énergétique qui a beaucoup grossi pendant ces années, il a eu beaucoup de chance, le pétrole a plus de $100 pendant 7 ou 8 ans. Et ce pacte, c'était je vous sécurise, je crée de l'emploi avec de l'infrastructure, etc. Et vous restez tranquille, vous renoncez à vos droits civiques. Voilà. Ce pacte s'est cassé parce que les Algériens ont bien compris que ça ne pouvait pas aller très loin parce que la rente était en train de disparaître et que le renoncement aux droits civiques était en train de creuser à la fois des inégalités et un pays qui était devenu qui était devenu une voyoucratie parce qu'on a des dossiers de corruption, on a des affaires de détournement qui voilà, en Algérie c'est plus supportable.
C'est pour ça
la vitesse à laquelle ça s'est fait est surprenante un peu pour tout le monde, plus pour le pouvoir que pour l'opposition, mais elle est surprenante quand même.
Laetitia Bucaï, c'est pour ça que finalement le précédent mandat d'Abdelaziz Bouteflika, c'était déjà le quatrième, il était déjà très affaibli, n'avait pas provoqué une telle levée de bouclier pour vous?
Il y avait quand même eu des manifestations, parce que Bouteflika était déjà malade et tout à fait affaibli et sans doute incapable d'exercer le pouvoir. Et donc il y avait eu des mouvements de protestation, il y avait eu le mouvement de Barakat notamment, qui n'avait pas abouti. Je crois que pour les Algériens, et puis pas seulement pour les Algériens, je crois que le cinquième mandat, ça devient complètement ubuesque. C'est-à-dire que le président, peut-être qu'en 2014, on pouvait croire au rétablissement de Bouteflika, là. Plus personne peut y croire. Enfin, je veux dire, c'est quand même la première fois qu'on voit un chef d'État dans cet État aussi affaibli. Enfin, peut-être le dernier chef d'État dans cet État-là, c'était Jean-Paul II. Mais la dimension, alors il y avait peut-être une dimension christique, mais là, pour Bouteflika, on n'attend pas ça de lui, on n'attend pas ça d'un chef d'État algérien. Puis, c'est terrible, parce que quand même, Bouteflika, c'était justement, il a été très, très, très jeune ministre des Affaires étrangères. Il incarnait cette période où l'Algérie était fière, était présente sur la scène internationale. Et là, les Algériens, je crois, ont honte de leur président, ont honte d'être représentés par quelqu'un qui est aussi affaibli et aussi inexistant. Puis, bien sûr, c'est une façade, parce qu'au fond, on sait bien que c'est pas Bouteflika qui gouverne, qui prend les décisions, que c'est d'autres dans son entourage, et que en acceptant un cinquième mandat d'un président quasi fantomatique, eh bien, on perpétue ce système où on ne sait pas clairement qui gouverne, ou en tout cas, il n'y a pas de visibilité des gouvernants, et je crois que ça commence effectivement à irriter très fortement des Algériens.
Alors la réponse maintenant des autorités algériennes, il a fallu attendre ce lundi et le discours devant le Parlement du Premier ministre Ahmed Ouyaïa.
Chacun a le droit de défendre le candidat qu'il souhaite défendre et chacun a le droit de s'opposer au candidat auquel il souhaite s'opposer, à condition que cela s'exprime par les urnes, de manière pacifique et de manière civilisée.
Alors, dans son discours, le Premier ministre a aussi mis en garde les Algériens contre, je cite, des risques de dérapage sérieux. L'Algérie a vécu suffisamment de souffrances et connu suffisamment de réformes pour avoir obtenu la possibilité de choisir dans le calme et la paix. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Laetitia Bucaï, cette référence à la décennie noire. Issane El Kadhi, ça veut dire que l'argument ne tient plus, la continuité n'est plus un gage de sécurité. En tout cas, les Algériens n'ont plus peur de tenter autre chose.
Parce que sur le plan générationnel, l'Algérie est un pays très dynamique et le renouvellement s'est fait depuis 20 ans. Ceux qui sont dans la rue, pour leur grande partie, n'ont pas connu les années 90 et ne peuvent pas être tenus en otage par la peur de revenir à un pays, à une situation de guerre civile. Il y a un autre chantage qui a été exercé par les autorités algériennes, malheureusement pour nous, C'est celui de la déconfiture du printemps arabe dans certains pays, notamment la Syrie et la Libye, pour dire que, voilà, quand on se rebelle contre le régime, on va à l'aventure, on expose le pays à la fitna, et ça débouche sur des situations inextricables, on peut perdre la souveraineté du pays. Eh ben, ça aussi, ça a cessé de fonctionner, parce que les Algériens finissent par faire la part des choses, ils vont massivement en vacances en Tunisie, par millions, ils voient bien qu'il y a des révolutions dans le monde arabe, la première d'ailleurs, celle de Tunisie, qui a finalement plus ou moins réussi. Et les Tunisiens sont fiers de pouvoir renverser leur gouvernement tous les 4 ans, tous les 5 ans, s'ils ne sont pas contents de sa politique.
Alors, le directeur de cabinet d'Abdelaziz Bouteflika a précisé aujourd'hui que la candidature pour un cinquième mandat sera bien déposée le 3 mars au Conseil constitutionnel. L'examen des candidatures donc aura lieu le 10, Laetitia Bucaille. Comment vous interprétez les réactions du pouvoir? Est-ce qu'on sent une panique ou pas du tout? Est-ce que le fait d'affirmer que la candidature d'Abdelaziz Bouteflika sera bien déposée, c'est dire, vous pouvez toujours manifester, rien ne changera? Qu'est-ce que vous percevez, vous, de la réaction des autorités algériennes?
Bon, on sent pas exactement une panique, ou en tout cas pas encore. C'est-à-dire qu'il est peu probable que le pouvoir algérien plie sur cette question de la candidature. Ce qui peut-être être négociable ou être l'objet de débats au sein du pouvoir algérien, c'est est-ce qu'on ouvre ou non l'élection présidentielle? Est-ce qu'il y a des candidats qui auraient vraiment une chance face à Bouteflika? Ça peut... Et notamment la question de la validation de la candidature de Rachid Nekaz qui pose problème puisque c'est un résident algérien de très fraîche date. Ça sera un signe justement de pour voir si le pouvoir ouvre ou non le jeu, puisque Rachid Nekaz semble extrêmement populaire auprès de la jeunesse, puisqu'il fait campagne d'une nouvelle façon en utilisant les réseaux sociaux, et puis aussi sans doute parce que il vient d'ailleurs et
il détonne aussi
nouveau.
Peut-être aussi oui, des figures de l'opposition qui sont parfois de la même génération ou même souvent d'Abdelaziz Bouteflika.
Oui, c'est un ovni en politique, ce Rachid Nekaz. C'est quelqu'un qui doit apparaître comme tout à fait fantaisiste aux yeux de beaucoup d'Algériens, qui a la nationalité française, qui vivent en France, qui renoncent à sa nationalité française pour venir en Algérie. Effectivement, c'est un renouveau complet, puisqu'il est tellement atypique.
Hissane El-Khady, qu'est-ce qui peut se passer selon vous? Est-ce que la rue peut faire plier ou pas? Est-ce que vous pensez que finalement, le 10 mars, rien n'aura changé? Abdelaziz Bouteflika sera bien candidat à cette présidentielle?
La tendance que le mouvement est en train de prendre me laisse penser que la rue finira par faire plier le régime, parce que l'option Bouteflika 5, ce n'était pas une option très forte. C'est une option qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place, parce que bon, tout le monde sentait bien que c'était pas possible, que c'était pas soutenable. Et puis finalement, Bouteflika s'est arrangé avec son cercle. Nous, on sait qui gouverne en Algérie.
Mais ça veut dire qu'il y a une alternative à Abdelaziz Bouteflika? Cette candidature n'a pas été déposée justement parce qu'il n'y avait pas d'autres noms?
Ben justement, parce qu'on n'a pas pris le temps de préparer un plan B, je pense que, c'est mon pronostic, je pense que sous la pression de la rue, cette idée de report et de conférence nationale va revenir en première ligne, et je pense que les élections pourraient ne pas se tenir à la date prévue et donner le temps effectivement au pouvoir de se redéployer avec une autre candidature que celle de Abdelaziz Bouteflika. Le pouvoir n'a pas intérêt à engager un bras de force avec la rue très longtemps sur une candidature qui de toute façon ne va pas le mener très loin. L'état de santé de Bouteflika ne permet pas de
construire
un projet de pouvoir sur la durée.
Pour conclure, Laetitia Bucaille, il nous reste une petite minute, 30 secondes. Est-ce que vous pensez vraiment que les autorités algériennes ont un plan B? De toute façon, la disparition d'Abdelaziz Bouteflika a forcément été anticipée.
Oui, c'est étonnant qu'ils aient pas préparé un plan B plus tôt, parce que ils ont quand même la possibilité de puiser parmi un personnel politique. C'est-à-dire que visiblement, il doit y avoir des gens dans son entourage, proches ou lointains, qui ont intérêt à ce que absolument rien ne change et que surtout l'opacité reste sur l'exercice du pouvoir, parce que avoir un nouveau candidat en bonne santé qui puisse décider, ça veut dire que peut-être ceux qui décident, ceux qui prennent vraiment les décisions actuellement en Algérie, ne seraient plus décisionnaires.
Merci beaucoup, Laetitia Bucaille, d'avoir été avec nous, adjointe du CESMA. Et merci à Hissane El-Khady d'avoir été en ligne avec nous, directeur de Maghreb émergent. Merci à toute l'équipe de Décryptage.